en te mettant à mes côtés. Quelle grâce. Je me rappelle encore du jour du mariage, parce qu'il y avait un mariage hier. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces souvenirs, sinon ça peut prendre beaucoup de temps. Mais en tout cas, ouais, quelle bénédiction. J'avais une petite image du coup que je voulais partager en introduction. Je n'avais pas prévu et puis finalement j'ai envoyé à Steph dans 2 minutes. Steph, si tu veux bien, tu peux la cacher encore un peu. C'est, je pense pour quelqu'un, moi j'ai des poules, vous savez, on a toujours eu des poules avec mes frères. C'est un peu la marque de fabrique qui a les pions. Et donc qui dit poule dit poussin chez nous, dit multiplication. Et il y a toujours un moment un petit peu compliqué pour les poussins, c'est quand les mamans les abandonnent. Voilà, c'est dans le cycle, il y a les mamans qui abandonnent leurs poussins. Et certaines mamans abandonnent plus vite leurs poussins que d'autres. Et là, en l'occurrence, ben, y a des poussins qui ont été abandonnés et ils étaient un peu jeunes. Et donc, ben, moi, je les laisse se débrouiller. Hein. Je me dis, ben, hey, c'est la vie, hein. Il faut se prendre en main. Et en fait, un matin, malgré tout, j'arrive dans mon poulailler et je vois un poussin grelottant de froid, tout transi. Et vraiment, je l'aurais laissé, il serait mort. Voilà, c'était la fin pour lui, quoi. Parce que bon, ben, vous rajoutez sur ça tout un poulailler qui vient le taper, qui vient le chasser, enfin lui marcher dessus. Enfin voilà, c'est la mort assurée. Et du coup, il m'a fait de la peine. Et je l'ai pris. J'avais un rendez-vous professionnel à 10h, mais bon, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je le prends. Déjà 2 heures, il sera réchauffé. Donc je le mets dans ma poche. Et puis, au bout des 2 heures, il était toujours pas suffisamment réchauffé. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le mets au poulailler. Je dis, non, allez, je l'amène avec moi au rendez-vous. Alors, dans ma poche, je l'amène, toute la voiture et tout ça. Et au moment d'arriver au rendez-vous, ben. Là, j'ai placé la voiture en plein soleil et j'ai laissé le poussin sous une couverture au soleil. Et il faisait bien chaud dans la voiture, j'ai dit je ne vais pas le sortir. Puis comme ça, en plus, ça m'évite de donner des explications et tout ça. Et du coup, ce poussin reste dans la voiture et j'ai complètement oublié le poussin. Et 1h30 après, je fais « Oups !» le poussin et je vais retourner le chercher. Il était en pleine forme. Et il avait couru et fait des crottes dans toute la voiture. Donc voilà la petite histoire. Et du coup, je l'ai ramené au poulailler. Il était revigoré et il a pu reprendre sa vie. Et le soir venu, c'est là que c'est compliqué parce qu'il a plus sa maman pour le chauffer. Et c'est là que c'est compliqué. J'ai dit, allez, j'avais une poule qui couve. Je l'ai mis sous la poule qui couve. Et au départ, il le tapait un peu. Et... finalement, bah, il est resté. Et le lendemain, bah, il est retourné lui-même devant la poule et puis il n'osait pas rentrer. Et puis, en fait, ce que j'ai trouvé beau, c'est que, bah, oui, on ne voit pas bien du coup, mais le petit poussin, c'est lui, là. Et en fait, la poule en question, ce qui est assez fort, c'est que c'est la plus forte de tout le poulailler. En fait, elle a une tête de dragon. C'est une poule de combat. Et en fait, il n'y a pas une poule qui est plus forte qu'elle dans le poulailler. Et en fait, finalement, elle ne lui dit plus rien. Et tous les soirs, hier encore, je l'ai montré à Céline, tous les soirs, il va se mettre gentiment sous la poule, en opportuniste, se réchauffer, tout ça. Et le lendemain matin, hop, il ressort. Et je dis à Céline, j'ai l'impression qu'il est comme ça, hey, go, en avant la vie. Vous voyez ? Et je voyais vraiment une image pour quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile. Et ce petit poussin, je veux dire, il était au bord de la mort. Hein, si je ne l'avais pas enlevé et mis sous cette poule, il serait complètement mort. Mais voilà, il y a eu un moment pour lui où, oui, il a vécu des choses difficiles. Et puis, il y a un moment où il a été restauré. Dieu veut vous restaurer. Ce matin, j'avais vraiment cette image pour quelqu'un. Dieu veut te restaurer. Et il a été placé auprès de la plus forte du poulailler. Personne, je peux vous dire, ne s'approche de lui. Et je peux vous dire que votre Père céleste est le plus fort, est plus fort que tout. Et personne ne peut vous toucher quand vous êtes à l'abri de ses ailes. Voilà, le Seigneur se présente aussi comme avec cette image de poule. Donc c'est juste ma petite introduction. Et sans transition, je passe à ce que j'avais vraiment sur le cœur. Ça va être très court, mais je suis aussi dans la lecture de la Bible en un an. Bon, moi, ça a duré déjà un peu plus d'un an. Et puis, je le fais aussi un petit peu en mode à l'ancienne, c'est-à-dire, je me suis fixé, j'ai compté les chapitres qu'il y avait dans la Bible, et puis j'ai divisé par le nombre de jours. Et puis, du coup, je me suis mis à peu près 3 chapitres par jour. Tout va bien, j'avance. J'ai fini le Nouveau Testament, l'Ancien Testament C'est plus long, donc voilà. Donc je relis le Nouveau Testament et en même temps je continue ma lecture de l'Ancien Testament. Et j'arrive dans les chapitres de Jérémie. Et là, c'est quand même un petit peu dur à lire parce que c'est beaucoup de jugements. Alors c'est le jugement de Judas. Ensuite, il y a des prophéties contre les nations étrangères, donc l'Égypte, les Philistins, la Phénicie, Moab, Édom, ainsi de suite. Il y a 52 chapitres où il n'y a que donc, des jugements et des prophéties contre les nations. C'est vraiment long. Je vous promets que quand je lisais, je me disais, mais il reste combien de chapitres? Ah ouais, encore ça. 52 chapitres, quoi. Et à la fin des chapitres de Jérémie, il y a lamentation de Jérémie. Alors, ce n'est pas encore fini. Et malgré tout, ce qui m'a touché, c'est qu'après tous ces jugements, après toutes ces prophéties, Jérémie, il dit quand même, dans Lamentation 3, au verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Elle se renouvelle chaque matin. Alors vraiment, je me suis dit, waouh, c'est énorme que le gars, après avoir vécu autant de difficultés, de jugements, il arrive à dire encore ça. Et moi, franchement, je tire mon chapeau. Malgré tout, j'étais très content de finir le chapitre et de passer à Ézéchiel. J'avais hâte. Et quelle ne fut pas ma surprise, parce que Ézéchiel, j'avais déjà lu, mais on retombe assez rapidement aussi dans des jugements. Cette fois-ci, c'est les jugements de Jérusalem. Il y a quand même 20 chapitres sur les jugements de Jérusalem. Donc là encore, waouh, je dis, il en reste beaucoup de jugements. Et après, c'est les jugements des nations païennes. J'étais donc dans ce sentiment de... ça dure en fait, quelque chose qui dure et on a hâte que ça finisse, quoi, voyez. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans leur vie dans ce sentiment-là, qu'on vit des choses qui sont pénibles, qui sont dures, qu'on a du mal à traverser et on a l'impression que ça ne finit jamais. Vous voyez qu'il y a encore un truc qui arrive, il y a encore une goutte de plus et on se dit non mais là je suis full, quoi. On peut pas plus. Mais si, en fait, il y a encore une goutte des fois qui vient se rajouter. Et c'est là que je tombe du coup sur Ézéchiel 36 au chapitre 16. Déjà, il s'intitule « Rétablissement d'Israël dans son pays ». Alors là, je fais « Ah, ça a l'air un peu plus, un peu plus positif, quoi. » Et au verset 17... Donc, Ézéchiel était sacrificateur. Et chapitre 36, verset 17, « Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. » Et je me suis dit, en fait, ce qui est beau dans cette image, même si c'est... la souillure d'une femme pendant son impureté, c'est pas parce que une femme est souillée pendant son impureté qu'on la rejette. Vous voyez ce que je veux dire ? On s'en éloigne, mais on ne la rejette pas. Et ça m'a touché de voir que même là, Dieu montrait son amour dans la comparaison qu'il utilisait. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est ceux de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi... Dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai dans tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alors c'est la période où le peuple d'Israël a été emporté dans Babylone et dans différents pays. Et ils sont en fait en captivité au moment où Ézéchiel donne cette prophétie. Et voilà, c'est une prophétie qui est pleine d'espérance, du coup. Parce qu'il dit, ben voilà, je vais vous ramener, même si vous avez péché à cause de mon nom, à cause de moi, je vous ramène parce que vous êtes mon peuple, malgré tout. Voyez. Et donc au verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et on le voit sous nos yeux actuellement, hein, en Israël, le jardin qui est devenu comme un jardin d'Éden. Et on voit à quel point, en lisant ce texte, après tous ces chapitres de condamnation et d'exil, ainsi de suite, on voit que Dieu, il n'oublie pas son peuple. Et quand il le décide, il intervient et rien ne peut arrêter sa main. Alors moi, ça m'a vraiment encouragé et c'est vraiment ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que Dieu ne vous oublie pas. Comme ce petit poussin-là, Dieu ne vous oublie pas. Il vous prend sous son aile. Et si le peuple d'Israël a été châtié, j'ai envie de dire, la Bible dit dans Ésaïe 53 au verset 6, j'ai eu vraiment ce verset en lisant ce texte dans ma lecture personnelle, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Le peuple d'Israël, lui, a été condamné, mais nous, on ne subit pas cette condamnation, c'est Jésus qui a pris cette condamnation pour nous. Voyez, il a pris cette condamnation. Tout ce qu'on aurait dû, tout ce que le peuple, lui, il a subi, Jésus l'a porté à la croix pour nous. Et du coup, on n'a pas à vivre cette condamnation, on n'a pas à vivre dans cette misère spirituelle. Et je continue, et le chapitre suivant est juste tellement magnifique, c'est là que je veux vraiment aller. C'est le chapitre 37, Ézéchiel 37, je pense que ça fait écho chez beaucoup de monde. Et du coup, c'est Ézéchiel qui a une vision. La main de l'Éternel, je m'excuse, la lecture est un peu longue, mais je voulais vraiment prendre ce temps. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Il circule dans une vallée où il n'y a que des ossements. Et j'aime bien le temps que Dieu prend. En fait, il le fait circuler, quoi. Il n'est pas juste regarder, il fait circuler, d'un air de dire, vas-y, touche. Voilà, ils sont vraiment morts, quoi. C'est sec, quoi. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et je trouve que c'est vraiment une réponse un peu de poisson que moi-même j'aurais pu faire. Oui, c'est la réponse de celui qui a quand même vécu des galères. Il a perdu sa femme entre-temps, hein, Ézéchiel, au cours de ses prophéties. Et il a vécu quand même des choses très difficiles, la déportation et ainsi de suite. Et il dit, le Seigneur lui pose cette question, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il dit, tu le sais. Un peu comme si nous, en fait, on a une situation qui est compliquée et que peut-être on l'a prié déjà plusieurs fois et qu'on n'a pas compris pourquoi Dieu n'a pas agi. Et on dit, le Seigneur te dit, mais alors est-ce que tu penses que je peux faire quelque chose? Ouais, tu sais, oui, je pense que tu peux, d'accord? Est-ce que tu crois que je peux changer cette situation? Oui, c'est pas un oui franc, quoi, hein, c'est pas oh, yes, amen, oui, tu peux, non, c'est pas du tout ça. On est dans oui, si tu veux, tu peux, ok? Et du coup, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc là, il parle à des eaux. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Parlez à des eaux, comme si vous alliez dans un cimetière et que vous parlez à des eaux. Vous voyez, vous dites aux eaux, quoi. Allez, ok. Et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux, d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que vous ferez sortir et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alors je trouve ça tellement grand. Je trouve ça tellement waouh. Et du coup, je crois qu'on est tous confrontés à des eaux desséchées dans nos vies. Il y a des eaux qui sont là et qui sont mortes, des espoirs qui sont voilà, finis. Il n'y a plus d'espoir. En fait, on dit le cimetière est rempli. C'est quoi le terme, Rebecca? De bonnes intentions. Le cimetière est rempli de bonnes intentions. Voilà, il y a des gens qui avaient plein de bonnes idées, tout ça, mais en fait, ils sont pas. Voilà, et ben, le cimetière, il est rempli de bonnes intentions. Et des fois, on attend qu'il se passe quelque chose, et en fait, ben, la chose n'arrive pas, et du coup, ben, elle meurt. Et on ne l'attend même plus pour finir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le Seigneur, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit d'abord regarde la mort. Mais ensuite, il lui dit prophétise. OK? Et il dit prophétise, ouvre ta bouche. D'accord? Ne reste pas muet devant la mort, mais prophétise. On a une action à faire. On a une action à mener face à cette mort qui est dans notre vie. On a quelque chose à faire. On n'est pas juste là, statique, à attendre que ça se passe, mais on a nous-mêmes un rôle à jouer, à prophétiser sur la mort, les eaux desséchées. Et ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Est-ce que il y a des situations qui ont détruit votre espérance? Est-ce que vous vous sentez perdu? Est-ce que vous avez des attentes qui ne sont pas assouvies? Des espoirs qui ne sont pas assouvis? Est-ce que c'est votre cas? Moi, c'est mon cas. J'attends des choses et je dis, Seigneur, je veux voir ces choses. Est-ce que vous voulez voir des choses qui ne sont pas encore arrivées? Eh bien alors, j'aimerais vous encourager ce matin à prophétiser. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Je demanderai tout à l'heure à Stéphanie de revenir. Mais pour l'instant, je voudrais continuer encore un petit peu. Voilà, le Seigneur, il nous encourage à entrer en action. Et moi, j'aime trop parce qu'il dit « regarde », mais ensuite « prophétise ». D'accord ? Et lui, Ézéchiel, il dit « je prophétisais selon l'ordre ». D'accord ? Il n'a pas fait parce qu'il a eu envie, il a fait parce qu'on lui a donné l'ordre. Voilà, et je crois que ce matin, le Seigneur vous donne l'ordre de prophétiser sur les situations qui sont mortes dans vos vies, les choses qui ne bougent pas, qui sont immuables. Là, le peuple d'Israël était déporté. Voilà, c'était comme une sorte de mort hein, pour eux. Et le pays, l'Israël, le pays promis, tout ce qui était l'espérance, toutes les promesses qui avaient été données à Abraham et tout ça, tout était mort. En fait, le pays, ils y avaient été, ils ont péché, ils ont été déportés. Voilà, point barre. On a l'impression que la situation est finie. Mais non, ce n'est pas fini. Le Seigneur dit, prophétise sur les eaux desséchées. Prophétise sur ta situation qui est morte. Et ensuite, il dit, esprit, l'esprit des quatre vents, viens souffler. Et j'aimerais vraiment que ce matin, le Saint-Esprit, l'Esprit, vienne souffler sur ce qui est mort en vous. Et je voulais juste prendre deux exemples. J'avoue que je l'ai pris juste dans ma lecture quotidienne, dans la suite de ma lecture. deux exemples de personnes qui ont prophétisé et qui sont rentrées en mouvement, qui ne sont pas restées à regarder, à contempler les eaux et à dire « Oh, c'est triste !» Mais qui ont dit « Allez, on se lève !» Et franchement, il y a des héros dans la Bible, il y en a tellement que c'est dur de choisir, mais là, c'était juste ma lecture quotidienne. C'est ma lecture, je crois, d'hier ou d'avant-hier. Et c'est dans Daniel, du coup, j'ai un petit peu avancé. Je suis dans Daniel 3, et c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez, c'est les compagnons de Daniel, sont les compagnons de Daniel. Et le roi qui avait Nebuchadnezzar qui avait donné l'ordre à tous les peuples de la terre de se plier devant la statue qu'il avait construite. Voilà. Donc il avait donné cet ordre et tout le monde devait le faire. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de le faire. Ils ont dit non, nous on plie le genou devant Dieu seulement. Et donc le roi était très très irrité, très en colère, parce qu'ils ont osé braver son autorité. Et il les convoque et il leur dit « Maintenant, tenez-vous prêts. » Donc c'est dans Daniel 3 au verset 15. « Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion, pardon, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Je trouve ça excellent. Bon, bah, en fait, on n'a pas, en fait, quel Dieu vous délivrera. On n'a pas besoin de vous le dire, quoi. Nous, on a confiance dans notre Dieu, on n'a rien à te prouver. Si tu ne crois pas, bah, ce n'est pas grave. « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Waouh ! Vous voyez, les mecs, ils sont résolus. Ils sont, voilà, eux, il n'y a rien qui va les faire plier. Nous ne plierons pas le genou. Vous voyez cette foi qui est là, cette attente envers Dieu. Quelle que soit la situation, la mort est devant eux, la fournaise est là, mais eux, ils disent non, nous ne plierons pas les genoux. Et je crois qu'en fait, c'est une attitude de cœur qu'on a besoin d'avoir parce qu'on est tous confrontés toutes les semaines, tous les jours pas des fournaises, on n'est pas dans la fournaise, mais on a des combats qui viennent face à nous et on a le choix en fait, de dire face à ce combat, non, je ne plierai pas le genou, je crois que Dieu peut me délivrer de ce combat qui est là juste devant moi, de ce géant qui se tient devant moi, Dieu peut m'en délivrer. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Et ce que je trouve beau, du coup, bah, Nebuchadnezzar a été encore plus en colère. Il était déjà très très en colère, mais là il était encore plus. Et carrément, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne sais pas si vous imaginez, il était fou de rage, quoi. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus fort qu'il ne convenait de la chauffer. Bon, je vous passe des détails. Il jette Shadrach, Meshach et Abednego liés avec tous leurs habits dans la fournaise. Ceux qui vont le jeter meurent parce que la fournaise est tellement forte qu'ils ne supportent pas et ils meurent en déposant Shadrach, Meshach et Abednego. Et quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? Ils voient Shadrach, Meshach et Abednego qui ne sont pas tout seuls et qui marchent au milieu de la fournaise. Il reprit donc le roi, je reprends au verset 25, il reprit et dit, 24, « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ? Ils répondirent au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Combien Dieu est grand ! Vous voyez, Dieu ne les a pas abandonnés au milieu même de la fournaise. Et après, en fait, ce que j'aime trop, c'est que c'est Nebuchadnezzar qui prit la parole à la fin de ce chapitre et qui dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à adorer Dieu. Et Steph, je voudrais que tu reprennes ce chant magnifique « Et le Seigneur ». Et je crois que pendant qu'on chante ce chant magnifique « Et le Seigneur », eh ben, le Seigneur veut opérer un miracle dans votre vie. Pendant qu'on chante ce chant magnifique « Et le Seigneur », j'aimerais que vous regardiez les ossements desséchés de vos vies. Qu'est-ce qui est mort? Quelles sont les espérances qui sont mortes? Quels sont ce sur quoi vous avez fait un trait? Et que vous commenciez à prophétiser et à dire « Seigneur, pas parce que la situation a changé, mais parce que tu es grand et parce que tu me dis que tu peux donner vie à ce qui est mort, alors je commence à prophétiser. » Et juste aussi pour contextualiser quand même avec quelque chose qui se passe aujourd'hui. Vous savez, certainement beaucoup d'entre vous reçoivent le magazine Porte Ouverte. Et le mois de mai, là, ce mois-ci, dans l'éditorial, j'ai beaucoup aimé parce que c'était un témoignage en fait. Le président, au lieu de parler comme il fait d'habitude, il a choisi de laisser la parole à quelqu'un. Et donc, c'est un frère en Christ qui s'appelle Ibrahim et qui habite en Syrie. Et qui dit, plutôt qu'un cours de doctrine sur la bonté de Dieu, je vous parlerai de cœur à cœur. Ces derniers jours, j'étais envahi de colère, de tristesse et de désespoir. Tout ce que je pensais connaître de la providence a été ébranlé. Certains disent que ce tremblement de terre est le dernier clou qui ferme le cercueil de l'Église en Syrie. Mais j'aimerais vous partager un passage des Écritures et Jacob, leur père, leur dit « Vous m'avez privé d'enfant, Joseph n'est plus et Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin ? Toutes ces choses sont contre moi. » C'est dans Genèse 42, verset 36. Ce Christ est celui des chrétiens du Moyen-Orient. Pour être honnête, nous avons l'impression que chaque événement se ligue contre nous. Extrémisme islamique, menaces terroristes, crise économique et maintenant séisme. La Bible nous dit que tout concourt à notre bien. Mais comme Jacob, nous ne voyons rien de bien dans ce qui nous arrive. Or, à y regarder de plus près, chaque affirmation de Jacob s'avère fausse. Joseph et Siméon étaient toujours vivants. Ces choses n'étaient pas contre Jacob, mais pour lui. Comme l'expliqua Joseph, « Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour faire subsister sur la terre, pour vous faire subsister sur la terre et vous faire vivre par une grande délivrance. » Jacob avait tort. Tout est arrivé dans le dessein de le bénir et nous trompons autant que lui. J'ai trouvé ça énorme, ce témoignage d'un chrétien en pleine guerre, en pleine... Ils subissent l'extrémisme islamique, les menaces terroristes, ainsi de suite. Il aurait tellement le droit de se plaindre, tellement de raisons de se plaindre. Mais il dit non. Il continue à croire que toutes choses concourent au bien de ce qui est mieux. Et même s'il ne comprend pas, en fait, il a cette foi que dans le plan divin... Et là, vous voyez, il y a des dessins qui ont été faits et je trouve ça excellent parce qu'on ne sait pas... Avant que la personne commence, on ne sait pas ce qui va être fait. Quand ça commence, c'est juste un trait. Et nous, souvent, en fait, on voit juste un trait, mais on ne voit pas l'ensemble du tableau. Et le Seigneur, il a l'ensemble du tableau. Et en fait, ben, j'aimerais vous encourager ce matin, pendant qu'on prend ce chant, « Magnifique est le Seigneur », à faire confiance au Seigneur et à dire « Seigneur, je choisis de me lever comme Shadrach, Abednego. » Je vous encourage d'ailleurs à vous lever, peut-être ce matin, et à tous qu'on puisse se lever, et dire comme Shadrach, Meshach et Abednego, ben, je choisis de ne pas plier le genou, je choisis de regarder les eaux desséchées et de prophétiser devant ces situations. Peut-être que c'est un mariage qui est à l'échec, peut-être que c'est ton fils qui a quitté la voie du Seigneur, peut-être que c'est une maladie qui est là depuis tellement longtemps et que tu attends même plus la guérison tellement la maladie est là. Peut-être que tu luttes dans le secret avec une addiction. Peut-être que tu as des désirs, de la colère en toi. Tu as peut-être des jugements contre des personnes et tu n'arrives pas à surmonter tout cela. Je t'invite ce matin à prendre ce temps pendant qu'on chante « Magnifique est le Seigneur ». Pendant qu'on chante ce chant, regardez vos ossements. Comme tout à l'heure, Stéphanie nous a fait prendre une minute pour faire silence et regarder nos cœurs. Ben, ce matin, regardez. Vous voyez, dans Ézéchiel, il fait d'abord regarder les ossements avant de prophétiser. Regardez. Regardez ce qui est mort dans votre vie. Regardez. Regardez. Et faites la liste. Il y avait beaucoup d'ossements qui étaient morts dans cette vallée. Et moi, cette vallée, ça me fait penser aussi à la vallée du Rhône. Vous savez, on parle de tous ces prophètes qui étaient là dans le passé. Et moi, je sais que voilà, c'est l'espoir, que l'attente qu'on a de que ces prophètes, ben, en fait, tout ce qu'ils ont semé, ça revienne. Voilà, il y a des ossements qui sont là, un réveil qui était là, et que ben, ce réveil reprenne vie. Et j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse chanter. C'est pas grave. C'est pas grave, Steph. Fais ce que tu...
Je peux rien faire.
Si, fais la mélo. Tu peux pas?
Non, il marche pas.
Ah, d'accord. Eh ben, alors, cher Thomas.